surtout un des gourous de l'intelligence artificielle en France. Alors, on sait que c'est plus compliqué que ça, votre parcours, ce que vous faites, ce que vous jouez comme rôle, mais on va plonger immédiatement pour faire du rattrapage dans l'ouvrage qui vous pose les questions ici. Vous êtes un pourfendeur de politique aujourd'hui sur ces matières, c'est-à-dire que vous les alertez, vous les dénoncez d'une certaine manière aussi, et un homme politique en France, Jean-François Copé, vous a interpellé à ce propos-là, et puis ensemble, vous avez décidé d'écrire, non pas un livre en commun, mais un livre à deux parties, où effectivement, vous vous exprimez, vous rappelez tous. Tout ce que vous pensez de ce que la politique fait aujourd'hui en France à ce propos-là, et puis Jean-François Copé donne son avis, on n'aura pas l'occasion. L'artificiel rend l'homme surpuissant, ou finalement il en fait un esclave. Est-ce que vous pouvez en gros nous expliquer votre point de vue à ce propos?
Alors, l'homme esclave de l'intelligence artificielle, ça suppose d'avoir des intelligences artificielles dites fortes, de tête conscience artificielle. On n'en est pas là. Aujourd'hui, quand on prend les 25 meilleurs spécialistes au monde du sujet, il y a des écarts absolument considérables entre les prédictions, les projections des gens sur la possibilité d'avoir une intelligence artificielle forte. Par exemple, il y en a qui voient ça arriver dès 2029, et il y en a qui voient ça arriver pas avant 2200. Vous voyez, quand on prend les meilleurs spécialistes mondiaux du sujet, il y a un désaccord profond sur la possibilité d'avoir des intelligences artificielles qui le dépassent. Ce qui aujourd'hui est clair, c'est que notre problème à court terme, et c'est un point qu'on partage, c'est pas de lutter contre des intelligences artificielles de type hollywoodienne qui voudraient nous écrabouiller, c'est de gérer la mutation politique et économique liée aux intelligences artificielles actuelles qui sont cons, mais qui font des tas de choses mieux que nous. Alors, pour reprendre la médecine, qui est un point qui nous intéresse tous les deux, Google a présenté une de ses dernières intelligences artificielles, Lyna, L-Y-N-A, qui fait du dépistage des micro-métastases des cancers du sein dans les ganglions. Et Lyna a 99% de bons diagnostics, alors que les cancérologues sont entre 62 et 70. Donc là, on a un problème. On a une IA con comme une bite, excusez-moi. Est très bête, qui ne sait pas qu'elle existe, qui ne sait pas qui est Google, qui ne sait pas ce qu'est un cancer, qui ne sait pas ce qu'est un traitement contre le cancer, qui n'a aucune conscience artificielle, mais qui voit mieux les métastases que les meilleurs docteurs. Et donc là, ce n'est pas un problème qu'elle va nous foutre sur la gueule. C'est comment gentiment on dit aux médecins que maintenant c'est obligatoire de demander l'avis de l'intelligence artificielle parce que sinon il y a des pertes de chance pour les malades. Comment on gère la transition, comment on forme les gens, comment on forme les gens qui sont menacés dans leur emploi. Et c'est là où on rejoint le thème de la démocratie. Oui, les écarts de capacité intellectuelle à l'ère de l'intelligence artificielle sont dramatiques. Bengio, qui est l'un des trois meilleurs spécialistes mondiaux de l'intelligence artificielle, récemment a dit il serait bienveillant de faire croire que les chauffeurs routiers dont les camions vont être conduits tout seuls par l'intelligence artificielle vont devenir data scientists. Sauf que c'est pas vrai. Et que les métiers de demain, qui ne seront pas concurrencés par l'intelligence artificielle, c'est des métiers compliqués. Et que les gens ne sont pas tous formés pour être physicien nucléaire, généticien ou data scientist. Donc que fait-on des gens pas bien formés dans le monde de demain? Eh bien, nous n'avons pas la réponse. Nous n'avons pas la réponse, et en plus, la société s'en fout. Pour le dire très crûment, le monde politique se fout complètement de ce qu'on va faire des baraquis face à l'intelligence artificielle en 2025. Et de l'équivalent en France, c'est-à-dire des gens en situation de précarité, de difficulté, qui ont du mal à se former, qui ont un bagage éducatif modeste. Alors, je ne vais pas prendre une statistique de chez nous, d'ici, mais je vais prendre des statistiques françaises et italiennes. 30% des jeunes Français qui quittent l'école et 35% des jeunes Italiens qui quittent l'école sont incapables de lire un texte simple de 5 lignes et de le résumer. Et c'est pas 5 lignes de Kant ou de Leibniz, c'est 5 lignes très simples. Donc, dans un monde réel où un tiers des gamins sort de l'école en étant incapable de faire une tâche élémentaire, n'ont jamais lu un livre. Vous savez que la majeure partie des gens ne sont pas comme vous, ne lisent pas. donc n'ont pas accès à la formation, etc., on a un énorme problème. Non pas parce que l'intelligence artificielle va nous y mouiller, mais parce que l'intelligence artificielle va être effectivement plus intelligente que des gens mal formés, mal éduqués et qui ne maîtrisent pas l'écrit. Et contrairement à ce qu'on a raconté, dans le monde qui vient, la maîtrise de l'écrit, la maîtrise du livre, qu'on lise au format papier ou au format numérique, est fondamentale. On ne peut pas se former si on ne sait pas lire et si on ne comprend pas ce qu'on lit. On ne le peut pas. Et on est aujourd'hui dans un déni complet des conséquences sociales et politiques avec les excès que l'on connaît. Comment gère-t-on les inégalités? Dans le livre, je cite cet exemple qui a ému le Financial Times, récemment. Chez Google, les bonus chez les très très bons spécialistes de l'intelligence artificielle ont maintenant dépassé 100 millions de dollars par personne. C'est choquant, mais c'est logique. Dans une économie où ces géants de l'intelligence artificielle font d'énormes profits et sont excellents en recherche. Hein. Cette semaine, ma tribune dans l'Express est à propos de la recherche chez Amazon. Le budget de la recherche chez Amazon, c'est plus de deux fois la recherche totale de la France. Oui. Cette année, Amazon en recherche, en total, hein, va faire 26 milliards de dollars de dépenses de recherche. Donc oui, on a un énorme problème politique. Comment gère-t-on ces géants de l'intelligence artificielle? Comment évite-t-on une société à deux vitesses? Et comment fait-on pour que Harari, dans Homo Deus, ait tort quand il décrit le monde futur avec des dieux? C'est-à-dire des hommes qui maîtrisent parfaitement l'intelligence artificielle et puis des gens qui ne maîtrisent pas l'intelligence artificielle et qui sont abandonnés au revenu universel jusqu'à leur mort. C'est-à-dire des milliardaires de l'intelligence artificielle d'un côté et des baraquis abandonnés ne comprenant pas le monde dans lequel on est. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que moi je suis révolté du manque de moyens qu'on met dans l'éducation dans nos pays. Moi je ne suis pas dur et politique c'est un métier difficile. Hein. Vous avez vu qu'en France, le maire de Bordeaux, Alain Juppé, a démissionné il y a deux jours et il a dit j'en ai ras-le-bol. Des complots, des idées complotistes, de la haine contre les élites et contre les politiques, j'en ai ras-le-bol. Et on aurait besoin de politiques d'exception, mais les politiques d'exception, maintenant, ils en ont marre, ils vont aller faire du business. Hein. Et donc on va avoir une difficulté supplémentaire qui est que nos classes politiques vont se dessécher parce qu'elles sont détestées par la population, alors même qu'il faudrait, face aux géants de l'intelligence artificielle, des hommes politiques extrêmement sophistiqués, comprenant ces enjeux. Un homme politique de troisième niveau ne va pas comprendre ce qu'il faut faire face aux géants de l'intelligence artificielle chinois et américains. Les Google, Apple, Facebook, Amazon, les Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi, on pense ce qu'on veut des propriétaires de l'intelligence artificielle, mais c'est des gens extrêmement intelligents. Et c'est pas en mettant des politiques de troisième zone qu'on va pouvoir les réguler. Donc en réalité, il faudrait des élites politiques de haut niveau, et on ne les a pas. Donc on est un peu coincé, d'ailleurs. Si on avait des élites politiques de très haut niveau, nous, pays occidentaux, on ne se serait pas laissé piéger en laissant tout le pouvoir aux multinationales de l'intelligence artificielle, hein, qui font d'ailleurs des choses extraordinaires. Mais oui, toute l'information du monde est contrôlée par Google et par Baidu en Chine. Oui, le e-commerce est de plus en plus structuré par Alibaba, Alipay en Chine et par Amazon chez nous. Donc, on a loupé le coche. Comment on peut reprendre la main dans le futur? Éviter notre vassalisation technologique, réguler l'extrême complexité de ces sujets. Et beaucoup, beaucoup d'hommes politiques n'ont toujours pas compris la différence entre l'informatique traditionnelle et l'intelligence artificielle. Ils imaginent qu'on peut auditer l'intelligence artificielle, ce qui est une folie. L'intelligence artificielle va rester des boîtes noires. Et c'est bien ça la difficulté, c'est qu'il va falloir, on va donner des décisions vitales à l'intelligence artificielle, alors même qu'on ne sait pas pourquoi elle décide. Et c'est très troublant, mais on va le faire, parce que l'intelligence artificielle soignera mieux notre cancer que le meilleur cancérologue sur Terre. Et donc on va devoir s'habituer à déléguer à des intelligences qu'on ne comprend pas des décisions vitales. Mais juste une seconde. C'est, je cite une remarque de mon fils dans mon livre, avec qui je parlais de ces problèmes de boîte noire. Est-ce qu'on peut confier des décisions vitales à une IA qui va rester des boîtes noires? Parce que c'est pas possible de comprendre les 800 millions de neurones sur 20 couches et de savoir pourquoi elle a choisi la chimiothérapie A ou elle a choisi la chimiothérapie B. Eh bien parce que, c'est une idée de mon fils aîné, parce que on va faire comme l'aveugle avec son chien d'aveugle. L'aveugle est plus intelligent que son golden retriever. Mais il lui confie pourtant l'itinéraire. Parce que le golden retriever, il est plus con que le maître, mais il n'est pas aveuglé. Il voit. Et nous, c'est pareil. On va se confier à des intelligences artificielles moins intelligentes que nous, mais qui, elles, ne sont pas aveuglées dans les milliards de milliards de milliards de données que nous, qui nous paument. Et en réalité, nous sommes aveugles dans les montagnes de données, même si on est plus intelligent qu'IA, alors qu'IA n'est pas du tout aveuglé par les montagnes de données. Et donc, effectivement, on va passer avec l'IA le même deal que l'aveugle fait avec son chien. On a raconté une quantité incroyable de conneries. On a fait croire que les jeunes, parce qu'ils étaient jeunes, allaient se mouvoir dans l'économie du big data et de l'intelligence artificielle comme des poissons dans l'eau. Les dernières études montrent exactement le contraire. 30% des gamins de 15 à 20 ans sont incapables de remplir un formulaire sur Internet. Ils peuvent mettre une photo sur Instagram, mais ils ne savent pas remplir un formulaire. Quand vous ne savez pas lire et écrire correctement, que ce soit sur papier ou sur numérique, il n'y a pas de différence.
Mais non,
en réalité, si on exclut les gens très très âgés, en réalité, il n'y a pas de différence dans la maîtrise du numérique entre les seniors et les ados dans le monde réel en 2019. On a fait croire que le problème des jeunes allait être réglé par les outils numériques, ce n'est pas vrai. Quand on est con, qu'on soit jeune ou qu'on soit vieux, eh ben on ne va pas savoir se démerder avec les formulaires, la data. Quand on est malin, qu'on soit un vieux schlop comme moi ou qu'on soit un ado, il n'y a pas de différence non plus. Donc malheureusement, les jeunes générations, elles ont énormément de problèmes avec le numérique qui sont complètement cachés et on avait croire qu'il n'y avait pas de problème et ce n'est pas vrai. Les 30% de gamins ne sachant pas lire un texte et le résumé, je peux vous promettre qu'ils sont totalement paumés dans le monde numérique. Je ne parle même pas d'apprendre à faire du code ou à faire de l'intelligence artificielle. Même pour détacher les mandaires, ils sont paumés. Quand on ne maîtrise pas le livre, quand on ne maîtrise pas l'écrit, on va être demain encore plus paumé dans la société qui vient qu'on a pu l'être dans le passé. C'est l'école. Mais vous savez, l'école, on va mettre des décennies pour réduire les inégalités intellectuelles. Quand on prend la mesure extrêmement coûteuse qui a été mise en œuvre en France, le dédoublement des classes difficiles. Donc on a fait passer les classes les classes préparatoires de 25 enfants par classe à 12. Ça entraîne quasiment un doublement de la dépense. C'est un effort budgétaire absolument immense. On a gagné 0, 1 écart type, alors que les gamins sont entre moins 2 et moins 3 écart type. On double la dépense et on gagne 0, 1 écart type. Donc, sur les enfants en très grande difficulté, on en a 10% qui sont passés en grande difficulté. Vous doublez la dépense scolaire et le résultat, c'est 10% des gamins en très grande difficulté qui passent en grande difficulté. Ces gamins seront encore sur le marché du travail en 2070. Je peux vous dire que face aux intelligences artificielles de 2070, des gamins qui sont aujourd'hui passés de très grandes difficultés à grandes difficultés, ils ne seront pas compétitifs et ils ne s'intégreront pas bien à l'économie. Donc le drame, c'est qu'effectivement, il faudrait beaucoup faire pour l'école, sauf que l'école est une technologie qui ne sait quasiment pas réduire les inégalités intellectuelles dans le monde réel. Et chaque fois qu'on fait une évaluation, on se rend compte à quel point, même avec des investissements massifs dans l'école, on ne réduit, hélas, on ne réduit malheureusement que très peu les inégalités intellectuelles. Ça va être le bordel pendant des décennies. Nous n'avons pas aujourd'hui de technologie éducative pour réduire les inégalités intellectuelles. Or, à l'ère de l'intelligence artificielle, les gens moins intelligents que l'intelligence artificielle vont être dans une situation extrêmement difficile. Il faut développer une culture. Il faut développer l'éducation, mais les résultats vont être ultra décevants. Et l'évaluation du dédoublement des classes en France a beaucoup surpris. Les gens imaginaient que ça allait radicalement changer le destin des enfants moins favorisés sur le plan cognitif. En réalité, malgré une dépense énorme, ça fait un tout, tout petit gain. Nous devons aujourd'hui massivement investir dans la recherche en pédagogie pour trouver des moyens de réduire les inégalités intellectuelles. Et ça va être un combat extrêmement long. Il ne faut pas penser que ça va prendre 5 ou 10 ans. Ça va prendre plus de 50 ans d'avoir des technologies réduisant les inégalités intellectuelles. Et le grand danger, c'est qu'on ait la société que décrit Harari dans Modéus, effectivement, des dieux et des inutiles. Si nous ne faisons pas un effort massif, on va vers ce cauchemar politique.